Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principes Actifs, donc c'est Amnesty International, pour sa première émission du mois de mars. Voilà. Consacrée, bien évidemment, comme deux fois par mois sur l'antenne de Principes Actifs, à la promotion et à la défense des droits humains, puisque c'est pour ça qu'Amnesty International existe et agit dans le monde entier depuis pas mal d'années maintenant. Et pour animer l'émission avec moi ce soir, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Claire Lise.
Bonsoir.
Voilà. Donc, une heure pour parler des droits humains et plein de sujets. On ne va pas vous dévoiler tout le conducteur de l'émission tout de suite, mais restez à l'écoute parce qu'on va aborder plein de sujets dans plein de pays différents. Et pour commencer l'émission, je voulais vous faire part, c'était la semaine dernière, c'était la journée internationale des droits des femmes, le 8. D'ailleurs, à ce propos-là, petite parenthèse, n'hésitez pas à réécouter le podcast de notre autre série d'émissions qui s'appelle Fréquence droits humains, qu'on a fait en direct depuis le Collège de Navarre le lendemain, le jeudi 9, et qui était consacré aussi aux droits des femmes. C'était extrêmement intéressant et animé, avec plein de jeunes. Voilà. Donc pour parler de cette journée internationale du droit des femmes, je pense qu'il y a un petit texte qui est paru dans la chronique. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez le formulaire d'abonnement, je le dis à chaque fois, mais je le dirai jamais assez. Le formulaire d'abonnement sur le site amnesty.fr, donc n'hésitez pas. Et donc un petit article qui a été écrit par notre président qui s'appelle Jean-Claude Samouillet et qui a été consacré à cette journée du 8 mars. Et voilà ce qu'il dit. Quel est en définitive l'objectif de cette journée internationale des femmes ou journée internationale des droits des femmes ? Est-ce une façon de maintenir symboliquement l'infériorité de la moitié de l'humanité? Une façon de dire avec un brin de commisération « Mais bien sûr, nous savons que vous avez des droits. Preuve en est que nous avons décidé de vous dédier toute une journée. » Imaginerions-nous une journée des hommes, voire des droits des hommes? Ou est-ce une journée de lutte, de combat? Et surtout, de la part des décideurs, une journée d'engagement ferme pour que ces droits soient enfin respectés? Comme chaque année, nous allons sans doute assister à une avalanche de discours, de communiqués, dégoulinant d'indignation bon marché, de bien-pensance et de poisseuses justifications pour que finalement rien ne change vraiment. Des discours qui s'offusqueront qu'une femme soit tuée tous les 3 jours en France sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint, tout en soulignant qu'il faudrait des moyens pour empêcher tout ça, mais il y a tellement d'autres priorités. Des déclarations sur le fait que seulement 12% des victimes de viols ou d'agressions sexuelles portent plainte dans les commissariats, dont 73 seront classées sans suite. Mais, de vous à moi, est-ce que parfois, elles ne cherchent pas un peu ce qui leur arrive? Et l'on nous rappellera que le droit à l'avortement est bien fragile aux États-Unis, en Pologne ou en Hongrie. Mais, posons-nous la vraie question, laissez aux femmes le droit de disposer de leur corps. N'est-ce pas risqué de détruire les fondements mêmes de notre civilisation? Et idem pour l'excision. Il y aura des communiqués sur l'ignominie du sort réservé aux filles et aux femmes afghanes, interdites de vivre dans un pays au bord d'une catastrophe humanitaire, avec pour conséquence une recrudescence des mariages, des petites filles. Pour certaines familles, cela fait une bouche de moins à nourrir, ou une maigre dot qui leur permettra de tenir quelques semaines ou de s'assurer la protection d'un taliban. Mais c'est tellement loin tout ça. D'autres évoqueront les atrocités commises en Iran envers les femmes et ceux qui les soutiennent pour un pouvoir en bout de course qui tente désespérément de se maintenir en tirant à balles réelles sur sa jeunesse, en la condamnant à mort, en la torturant, en la violant dans de sinistres cachots. Mais tant qu'ils n'ont pas la bombe atomique. D'autres enfants s'apitoieront sur les filles et les femmes violées dans le Tigré. On va vous en reparler tout à l'heure d'ailleurs du Tigré, en République démocratique du Congo et dans tous les conflits. Mais soyons un peu réalistes, dans toute guerre, il y a des dommages collatéraux. Cette journée, on devrait l'appeler la journée de l'impuissance internationale, ou journée de l'hypocrisie, ou plutôt journée internationale de la capacité à s'accommoder de tout, même de l'innommable. Voilà. Alors ça peut paraître, vous paraître peut-être un petit peu, comment dire, triste, enfin voilà.
Pessimiste.
Pessimiste, merci, mais Edith, je cherchais le mot pessimiste, mais en fait c'était une teinte d'humour un peu macabre, et surtout, il faut surtout pas se mobiliser par rapport à cette cause-là, comme sur toutes les causes par rapport aux droits humains et aux atteintes qui sont portées aux droits humains. Et pour revenir donc à cette chronique Droits des femmes, il y a Edith qui a plein d'autres choses à vous dire.
Voilà, mais je continuerai juste ce que tu viens de dire, c'est la problématique de ces journées commémoratives. C'est que, effectivement, on en parle une journée, peut-être un jour avant, un jour après, et après, ça passe à une autre journée. Et quand on voit tout ce qu'il y a dans l'année, c'est surprenant, des fois, certaines journées commémoratives, on ne voit pas trop l'intérêt, effectivement, pour faire bouger réellement la société. Alors, j'ai quand même envie, moi, de continuer à vous parler du droit des femmes. Donc, j'ai bien aimé aussi un titre sur un article d'Amnesty, « Être femme n'est pas un crime », n'est-ce pas, Claire-Lise ? Nous ne nous sentons pas du tout criminels. Mais c'est vrai que c'est une partie de l'humanité qui souffre énormément. Féminicide, viol, discrimination, persécution partout dans le monde. Les femmes subissent des violences et des injustices intolérables et voient les atteintes à leurs droits les plus fondamentaux se multiplier. Donc, on va essayer de faire un tout petit tour, donc, qui n'est pas du tout exhaustif, de la cause des femmes. Mais ce que les gens... Voilà, par rapport à l'émission de radio qu'on a pu faire au Collège de Navarre, les jeunes étaient très, très intéressés et très... très demandeur de réflexion sur les droits domestiques, les droits des femmes, la violence faite aux femmes, et parce qu'on est en France, et c'est quelque chose qui est effectivement absolument intolérable. Mais là, j'avais envie de commencer par les violences sexuelles et les crimes de guerre, car ce qu'il faut s'imaginer, c'est que la femme, elle fait partie du butin des conflits et des crimes de guerre, et c'est excessivement facile. Donc, comme le disait Didier, il y a un article spécifique pour le conflit, la position des femmes dans le conflit du Tigré. Alors, je ne vais pas vous faire de la géopolitique sur le conflit du Tigré, qui est une partie de la région de l'Éthiopie avec des peuplades qui ont été, c'est un conflit interne, et qui ont été et qui sont encore en guerre les unes contre les autres. Mais effectivement, je vais vous parler d'un témoignage. Donc, j'étais chez ma mère avec ma grand-mère, lorsque deux hommes armés sont arrivés chez nous dans la matinée. L'un d'eux m'a violée dans la cour, pendant que l'autre s'occupait de ma mère à l'intérieur de la maison. Ce témoignage terrible est celui de Lucie, une jeune de 14 ans, survivante d'un viol perpétré dans le cadre du conflit en cours dans la région du Tigré, en Éthiopie. Car les violences sexuelles y sont nombreuses et commises par toutes les parties du conflit. Dans le village de Shema, au nord du pays, sur 30 femmes interrogées par nos chercheurs, 14 ont déclaré avoir été violées en réunion, dont 7 âgées de moins de 18 ans. Pour Donatella Rovera, chercheuse à Amnesty, ces crimes sexuels sont perpétués de manière organisée pour blesser, humilier, punir et terroriser toute une communauté. Alors donc, on a un petit entretien avec un journaliste avec elle qui donne un peu plus d'informations. Donc là, je vais vous en parler. La singularité du conflit du Tigré, lui demande-t-on. Ce qui distingue ce conflit, c'est l'échelle et la brutalité de l'usage des violences sexuelles. Les bureaux veulent vraiment humilier et punir toute une communauté. Les viols ont été commis à grande échelle, souvent en réunion et pendant plusieurs jours. Les insultes, le dénigrement à caractère ethnique ou racial, les mutilations gratuites ont été quasi systématiques. Il y a une réelle volonté de faire mal. Donc la majorité, le journaliste l'interroge, la majorité des Tigréens parlent de crimes contre l'humanité, voire de génocide. Donc là, c'est la position d'Amnesty. On peut parler de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et génocide, c'est plus compliqué. Mais il y a réellement un discours de haine qui a été exploité dans un contexte de violences sexuelles dont sont victimes les femmes. Cela contribue à faire durer les violences et à nourrir chez les uns et les autres la volonté de vengeance. Donc, question, quel est l'impact à long terme d'un usage massif de violences sexuelles sur les victimes et leur entourage ? Donatella répond, dans le cadre de ce conflit, il y a eu une absence de soins possibles pour les femmes, car toute la région était contrôlée et il y a eu un blocus de toute cette région par les autorités de l'Éthiopie. Donc le système de santé a fait que la plupart des femmes et des filles n'ont pas été soignées. Donc les forces gouvernementales, les milices et les forces érythréennes justifiaient ces crimes en disant aux victimes « Vos hommes ont fait ça à nos femmes, nous on se venge ». Et c'est ça, effectivement, ce qui se passe souvent dans les conflits armés, c'est que la femme, elle fait partie de l'ordre des vengeances des communautés les unes contre les autres. À qui incombe la responsabilité d'avoir commandité ou laissé commettre ces violences sexuelles ? Toujours notre chercheuse qui le dit, il y a sûrement eu des ordres au niveau politique pour inciter certains à infliger des violences sexuelles, mais ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y a une culture de l'impunité pour les violeurs. Ils peuvent agir comme ils peuvent, car il n'y aura aucune conséquence à leurs actes. Surtout, on ne sait si les moyens sont mobilisés pour enquêter, pour trouver les coupables. La question de la justice n'est abordée que de matière très superficielle dans les accords de ces sexes. Et ce qui se passe, ce que je me suis rendu compte en lisant plusieurs articles sur des situations conflictuelles, c'est qu'à aucun moment, on demande aux femmes de participer aux discussions de paix. Donc, à partir du moment où il y a des discussions, elles sont oubliées et elles ne peuvent plus avoir un poids dans ce qui se passe pour elles et au moins pour demander une justice équitable. Donc voilà pour l'Érythrée. Et si on fait un truc un petit peu plus, c'est pas très beau de dire ça à la radio, on va dire un regard un peu plus élargi, on peut aussi parler de ce qui se passe ou ce qui s'est passé en Afrique, au Guinée, au Nigeria, où les forces de Boko Haram ont aussi commis des viols et des violences sexuelles. Et là, il y a eu aussi la problématique du retour des femmes. Quand les conflits se sont apaisés, au Nigeria, vous vous rappelez les filles qui ont été kidnappées au Nigeria par... les milices islamistes, et qu'est-ce qu'elles font quand elles rentrent ? Alors, elles sont contentes de rentrer, la famille est contente de les retrouver, mais elles ont énormément de mal à retrouver leur place dans la communauté, car elles sont la mémoire de ce qui s'est passé, et elles sont impures quelque part dans la communauté. Et ça, c'est quelque chose aussi de très compliqué par rapport aux femmes. Et en plus, quand elles reviennent enceintes, en Afrique, les enfants... sont les enfants des terroristes, donc ils sont eux-mêmes des terroristes. Et elles sont des fois absolument dans l'impossibilité de se remettre dans leur village ou dans leur famille. Et l'autre fois, j'ai entendu quelque chose qui me semblait intéressant pour pouvoir leur repermettre de retourner. Je crois que c'est la communauté yézidi qui a trouvé une solution, entre guillemets. Les femmes, quand elles reviennent, on les emmène faire une cérémonie religieuse, et après cette cérémonie où on leur enlève toute douleur, toute impureté, et elles peuvent réintégrer les familles. Parce que ça aussi, il y a vraiment en Afrique et dans d'autres pays en Arabie des femmes qui sont complètement au banc de la société. C'est aussi la double peine, être violée et en plus ne pas pouvoir réintégrer sa communauté d'origine. Alors, on peut aussi parler des femmes en Ukraine actuellement qui, elles, subissent le conflit, très souvent parce qu'elles s'occupent des enfants, celles qui n'ont pas pu partir ou qui s'occupent de leurs parents, des personnes âgées, et qui se retrouvent dans des zones, il y a des témoignages dans des zones où les conflits avec la Russie sont très proches, et elles expliquent qu'elles ont très peu d'eau, d'électricité, car les Russes... attaque tout ce qui est infrastructure essentielle. Et ils ont aussi à s'occuper des enfants. Il y avait un témoignage de Marina qui a fui avec ses enfants. C'est très dur, je suis très seule avec 3 enfants. Personne ne pensait que la guerre allait arriver. C'était un choc, c'était terrifiant. Des combats violents faisaient rage tout autour de nous. Nous avons vécu dans un sous-sol pendant près d'un mois parce que les enfants étaient réellement terrifiés. Ma fille ne pouvait plus dormir dans la maison. Mes enfants sont en grande détresse psychologique et émotionnelle, et on ne peut pas se sentir à sécurité car les bombardements continuent tout autour. Les femmes aussi, par rapport donc toujours à l'Ukraine, la condition sanitaire est très compliquée, ne serait-ce que pour avoir des protections périodiques. Elles disent on doit les acheter, et donc il faut faire le choix entre nourrir la famille ou acheter des tampons ou des serviettes. Donc voilà, une triple encore problématique des femmes dans des conflits ou dans des situations complètement, même de catastrophe, on pourrait dire aussi. Donc, je surveille l'heure parce que je n'ai pas le droit à parler trop
longtemps. Non, mais il n'y a pas de souci,
Donc, il y a aussi, dans le droit des femmes, tout ce qui est par rapport au droit à la contraception.
Je vais juste faire un petit commentaire, Edith, un petit commentaire par rapport à ce que tu viens de dire, pour dire aux auditeurs et aux auditrices que par rapport justement à la situation des femmes en Ukraine en situation de guerre, il y a un très très bon communiqué, très récent, qui est sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, et ça s'appelle « Comment la guerre en Ukraine affecte-t-elle les femmes ?» Donc c'est ce dont Edith...
J'en ai pris juste un exemple.
C'est ce dont Edith vient de vous parler, effectivement, mais c'est beaucoup plus détaillé, effectivement. Donc n'hésitez pas à compléter votre information en allant sur le site amnesty.fr et en lisant cet article. Voilà.
Voilà, donc on continue, parce que le droit des femmes, on peut en parler pendant longtemps.
On continue, tout à fait.
Donc, tout ce qui est par rapport au droit de disposer d'elle-même, donc la contraception, l'avortement. Donc, on peut imaginer que dans un moment de guerre, ça n'existe plus. Avortement, on va avoir des rappels rapides sur la situation aux États-Unis, sur la situation en Pologne, sur la situation en Amérique du Sud. Et là, dernièrement, on a vu passer une demande de pétition, et je ne connaissais pas non plus, c'est Andorre. Andorre, vous voyez, c'est le tout petit morceau là qui est entre la France et l'Espagne, et dont notre président de la République est co-gouverneur. Ça ne doit pas se dire forcément comme ça, mais il a une place dans la politique d'Andorre. Eh bien, il y a une femme, Vanessa Mendoza Cortés, qui dénonce la loi contre l'avortement, parce qu'en Andorre, on ne peut pas avorter, même en cas de viol, d'inceste ou de risque pour la santé de la femme. C'est absolument interdit, et elle voudrait que ça change. Eh bien, elle va avoir un procès, et on l'a... Ce qu'on lui reproche, c'est le délit contre le prestige des institutions. Je trouve que ça, c'est quand même pas mal, quoi. Quand on dit, nous, on aimerait bien avoir un droit par rapport à ça. Et je pense que elle doit être jugée. Je me demande si c'est pas aujourd'hui. Donc, on va avoir, on pétitionner pour elle, et on va avoir sans doute des renseignements supplémentaires. Mais Andorre, c'est à côté.
Oui, tout à fait. Mais il faut pas se tromper. En Europe, il y a encore effectivement des pays qui ne respectent très très mal le droit pour les femmes de disposer de leur corps, et donc le droit à l'avortement, c'est clair.
Voilà, et donc si on veut terminer par rapport au mandat d'Amnesty, ce sont toutes les femmes qui sont défenseurs aussi bien au niveau écologique, au niveau d'autres communautés ou d'autres femmes. Et quand on est femme, et en plus quand on veut militer, là aussi c'est très dangereux, car pour les autorités, c'est très facile de pouvoir nous menacer, ou menacer les enfants, ou menacer les proches, ou faire preuve de violence sexuelle, comme on a pu voir. Il y a aussi un article sur la chronique pendant des manifestations où les femmes se font complètement agresser par des policiers. Voilà, c'est tellement facile de menacer. Et elles s'opposent à des risques du fait de leur identité de genre. Alors, on va parler de l'Iran aussi quand même, pour rappeler. Les femmes qui ont manifesté à la suite de la mort de Mahsa Amini ont fait l'objet de répressions spécifiques fondées sur des violences sexistes et sexuelles, avec notamment des cas où elles se sont fait agripper les seins ou tirer violemment les cheveux. Avec le soutien, nous dénonçons ces violations pour ce qu'elles sont: des actes de torture, des traitements inhumains et dégradants. Je vais m'arrêter là pour ce petit tour d'horizon sur le droit des femmes avec le regard amnistien.
De toute façon, on y reviendra. On y revient souvent dans nos émissions sur la défense des droits des femmes. Mais c'est normal, parce que pour nous, c'est la journée du 8 mars, c'est toute l'année. Donc ça, c'est clair. Et donc, effectivement, comme tu disais, pour les femmes, dans beaucoup d'endroits, et très souvent, quand on prend des positions et qu'on est réprimé, oui, c'est Edith qui montre la pendule.
Suis dans les temps.
Quand on est femme et qu'on prend des positions qui ne plaisent pas aux autorités, donc on est poursuivi poursuivi comme, parce qu'on milite, ça c'est, voilà, c'est universel malheureusement, et on est poursuivi aussi parce qu'on est femme, c'est ce qu'on appelle aussi une double peine, hein,
et,
c'est clair.
Et à redire quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte, c'est que quand les conflits se terminent, les femmes, on les oublie.
Oui, tout
elles
à fait.
Elles sont jamais dans les négociations.
Alors pour terminer avant la première pause musicale, quand même une bonne nouvelle par rapport aux femmes. Donc ça se passe en Russie, et Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles qui viennent de Russie en ce moment. Mais il y a donc une femme qui, l'Amnesty International est intervenue à plusieurs reprises, qui s'appelle Yulia Tsekova, et qui était poursuivie et condamnée à une peine de prison parce qu'elle, dans un premier temps parce qu'elle avait publié au niveau de la défense des droits des femmes, des dessins de vulves, et elle a été, alors je vais résumer la bonne nouvelle, mais elle a été effectivement libérée, et donc elle a été acquittée et libérée le 15 juillet dernier, donc voilà, et elle a fait savoir à Amnesty, effectivement, qu'elle avait retrouvé la liberté, et qu'elle était maintenant en lieu sûr, voilà, donc c'est une bonne nouvelle que cette femme puisse effectivement échapper à la prison pour avoir simplement
fait des dessins
dans l'esprit de défendre là aussi les droits des femmes. Voilà. Donc on fait la première pause musicale et on se retrouve juste après.
La petite carte en plastique que l'État m'a donnée. Ah ouais. Je l'ai bien méritée. Naître en République dans une clinique chauffée. Ah ouais. Je l'ai bien mérité. Les bancs de mon école, le pouvoir d'étudier. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Aller voir mon docteur quand je me sens fatiguée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. La douceur de l'enfance, l'amour qu'on m'a donné. Bah ouais, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Bah oui, partir, on me l'a toujours dit. Mon sang, c'est sûr, c'est la loi de la nature. C'est l'évidence, t'avais qu'à mettre en France. Et tant pis pour ta gueule si t'es né sous les bombes.
Retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, on vient d'écouter Clarica, un morceau qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, Bien Mérité, effectivement. Et je pense que les paroles se suffisent à elles-mêmes pour comprendre de quoi elle veut parler. Et pour poursuivre l'émission, c'est maintenant Claire-Lise qui va vous donner quelques informations à propos de la Tunisie.
Oui, donc je reviens sur un discours qu'a prononcé le président de la République de Tunisie, M. Kais Saïd, lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale le 21 février dernier. Donc, ses propos ont été jugés haineux et discriminatoires, et ils s'apparentaient à un appel à la haine, Et ces propos ont déclenché une flambée de violence raciste à l'égard des Noirs. Des groupes sont descendus dans la rue et ont attaqué des migrants, des étudiants, des étudiantes et des demandeurs et demandeuses d'asile noirs. Et des policiers ont procédé à l'arrestation et à l'expulsion de nombre d'entre eux. Alors, le président Kais Saied, lors de ce discours du 21 janvier au Conseil de sécurité nationale, a déclaré que des hordes d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne avaient déferlé sur la Tunisie et étaient à l'origine de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Il a ajouté que c'était une situation anormale qui s'inscrivait dans le cadre d'un plan criminel conçu dans le but de métamorphoser la composition démographique de la Tunisie et de la transformer seulement en un État africain qui n'appartienne plus au monde arabo-islamique. Entre parenthèses, ça me rappelle d'autres propos xénophobes en France sur le grand remplacement, etc.
Oui, oui, tout à fait. Moi aussi, ça m'a rappelé ça quand
j'ai... Ça rappelle bien ça. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à ce qui se passe. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, le président Kais Saied doit retirer ses propos et ordonner la tenue d'enquête afin de faire clairement savoir que la violence raciste anti-noire ne sera pas tolérée. Il doit cesser de trouver des boucs émissaires pour les problèmes économiques et politiques du pays. La communauté des migrants et migrantes noires africains en Tunisie a désormais peur des agressions, des arrestations arbitraires et des expulsions sommaires, a déclaré Eba Moraïef, directrice pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International. Pour vous dire quand même que les autorités tunisiennes doivent mettre immédiatement fin à la vague d'attaques visant les migrantes africaines noires qui ont commencé à déferler sur la Tunisie début février et qui s'est intensifiée. Ces attaques visant les migrants se sont intensifiées au lendemain des propos racistes et xénophobes tenus par le président Kais Saied le 21 février. Depuis, jusqu'à présent, les autorités tunisiennes ont cherché à minimiser ces attaques violentes, voire à les nier complètement. Elles doivent donner la priorité aux enquêtes sur les faits de violence policière à l'encontre de migrants et migrantes noires, mettre immédiatement fin aux retours forcés qui sont en cours et prévenir toute autre attaque à caractère raciste par des bandes ou des agents de l'État. Depuis 2 semaines, les autorités nient les violences racistes commises à l'égard des Africains et des Africaines noires. Et après le tollé international provoqué par les propos du président, elles ont annoncé le 5 mars de nouvelles mesures afin de faciliter le séjour légal des migrantes et des migrants, ainsi qu'une procédure de rapatriement pour ceux qui souhaitent quitter volontairement le pays. Je pense qu'on va les aider à quitter volontairement. Oui. Et cependant, les attaques et les violences se poursuivent. Donc, Amnesty International a interrogé 20 personnes à Tunis, dont 5 demandeurs et demandeuses d'asile, et 15 migrants sans papier originaires du Cameroun, de Sierra Leone, du Ghana, du Nigeria, de Guinée et de Côte d'Ivoire. Ils ont tous été attaqués par des foules et dans 3 cas au moins, la police était présente mais n'est pas intervenue pour stopper l'agression ni arrêter les auteurs. Avocats sans frontières, ASF, donc est une organisation qui fournit une aide juridique aux personnes demandeuses d'asile et migrantes et donc a confirmé qu'au moins 840 Africains et Africaines noires migrants étudiants ou demandeurs ou demandeuses d'asile ont été arrêtés dans plusieurs villes de Tunisie depuis début février. D'après de nombreuses personnes interrogées, la violence et l'hostilité à l'égard des Noirs faisant partie de leur quotidien en Tunisie. Toutefois, ces 20 témoins ont indiqué que les attaques s'étaient intensifiées après le discours du président. Donc, selon les personnes interrogées, après le discours du président, des Tunisiens, parfois armés de bâtons, de couteaux, sont descendus dans les rues de la capitale, les ont attaqués et ont fait irruption chez elles. On a le témoignage d'Aziz, 21 ans, originaire de Sierra Leone, Il a raconté qu'il était arrivé en Tunisie en juin 2021 pour travailler comme ouvrier dans le bâtiment. D'après son témoignage, quelques jours après le discours du président, 10 Tunisiens sont venus chez lui à Ariana. Ils ont fracassé la porte, volé ses affaires, ils l'ont mis dehors avec sa famille. Ses agresseurs, qui ont également bousculé son épouse, ont dit « Tous les Noirs doivent partir. Ils ne veulent pas nous voir, ils ne veulent pas de nous ici, ils ont pris notre argent, même notre nourriture, et ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas de Noirs et que nous devions retourner en Afrique. » Donc, pour revenir aux propos d'Amnesty, Amnesty International a aussi examiné des vidéos et des photos récentes prises à l'intérieur du centre de détention de Ouardia à Tunis, montrant des agents de forces de sécurité frapper des migrants. Dans l'une de ces vidéos, on voit des policiers traîner de force un homme noir en bas d'un escalier. Ces derniers jours, donc, des centaines d'Africains noirs ont été victimes d'actes d'intimidation dans le but de les renvoyer dans leur pays. Et c'est le cas d'au moins 300 Maliens et Ivoiriennes renvoyés le 4 mars dans le cadre de ce que les autorités ont qualifié évacuation volontaire. Donc, un groupe de migrants guinéens, lui, a été rapatrié le 1er mars. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce qui se passe en ce moment en Tunisie. Et j'ai choisi de présenter cet article aujourd'hui parce qu'il y a une action qui va être menée. Il y a un appel à pétition pour plusieurs choses dont je vais vous parler en fin d'émission. Et notamment qui appelle à manifester contre les propos racistes du président tunisien. Et cette manifestation aura lieu à Évreux. Le 18 mars, mais je vais vous en reparler tout à l'heure.
D'accord, voilà. Merci Clarisse. Bah, on attend ta petite intervention voilà, par rapport à ça, ton information.
Quand tu parlais du président tunisien et de ses théories, c'est aussi, on a l'impression qu'il lui aussi, il est un peu attaqué par les théories complotistes, quoi, le grand Rof. C'est vraiment très inquiétant parce que là, pour l'instant, il est seul à gouverner. Les Tunisiens ne votent pas quand il y a des élections. Donc, il y a une toute petite minorité qui va aller voter, les autres ils traînent les pieds pour montrer qu'ils sont pas d'accord, mais il y a des difficultés économiques pas possibles, donc il peut aussi manipuler une population un peu désespérée et faire des boucs émissaires très très faciles.
Et comme disait Clarisse, effectivement, en faisant le rapport aussi avec des propos similaires qui sont tenus en France par des gens qui se présentent entre autres à l'élection présidentielle, ce serait très facile de mettre des noms derrière ma phrase, faut bien rappeler effectivement que ce genre de déclaration n'amène que la violence et toujours la violence et jamais autre chose. Donc, ce qui m'a fait sourire en écoutant Clarisse, c'est qu'il y a une des personnes qui veut donc chasser les réfugiés
venant d'Afrique
en Tunisie, en disant retourner en Afrique. C'est quand même des propos surréalistes, parce qu'à ma connaissance, la Tunisie, c'est en Afrique aussi.
Oui,
hein,
donc, une population.
Oui, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. C'est pas une population majoritairement noire, c'est la différence. Mais bon. Donc, on va changer de sujet. Je regarde toujours la pendule pour qu'on puisse effectivement...
On a décidé d'être au taquet à cette émission.
C'est
donc
ça.
On va regarder beaucoup la pendule.
L'émission tranquillement.
Sûr.
Je vais vous redonner une information. Alors, on s'est beaucoup mobilisé. On a parlé plusieurs fois à la radio c'est dans les derniers mois sur les atteintes aux droits humains qui se passaient au Qatar à propos du moment de
la Coupe de foot.
La Coupe du monde de foot au Qatar. Alors, bien sûr, la Coupe du monde est finie. Ça ne fait plus effectivement du tout une priorité dans les médias. Pour autant, effectivement, Amnesty, qui ne l'a jamais, continue à se mobiliser. Et là, donc, voilà une information complémentaire. La FIFA, donc la Fédération internationale de football, s'est vue remettre une lettre, donc par Amnesty, une lettre assortie d'une pétition ayant recueilli plus d'un million de signatures, ainsi que des maillots de football personnalisés, lui demandant d'indemniser les travailleurs et travailleuses migrants victimes de terribles violations des droits humains dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Ces documents ont été remis à la FIFA à la veille du congrès annuel de l'organisation qui se tiendra le 16 mars au Rwanda et au cours duquel certains de ses propres membres feront pression afin qu'elle remédie à ces terribles abus. Cette réunion offre une nouvelle occasion à la FIFA de faire amende honorable et d'établir un programme et un calendrier ferme en vue d'indemniser directement et rapidement les familles et les travailleurs qui ont subi des violations choquantes des droits humains dans le cadre de la préparation d'une Coupe du Monde fondée sur leur sacrifice. Ils, donc les travailleurs, ont subi de terribles violations pour contribuer à organiser une Coupe du Monde qui a rapporté des milliards de dollars à la FIFA, mais dont le coût humain se chiffre en familles endettées et endeuillées. Si rien ne peut remplacer la perte d'un être cher, il ne fait aucun doute que la FIFA dispose des ressources nécessaires pour réparer ces injustices et apporter une aide qui changera la vie de travailleurs et de travailleuses et de leurs familles. Donc plus loin le communiqué, je ne vais pas tout vous lire, mais plus loin le communiqué dit effectivement, entre autres, que la Fédération de Norvège de football, appuyée par plusieurs associations nationales, a programmé une discussion lors du congrès donc, de la FIFA et proposé que la FIFA garantisse la mise en œuvre pleine et entière de ses engagements en faveur des droits humains, notamment en termes de réparation. À ma connaissance, la Fédération française de football n'est pas du tout allée aussi loin. Donc la Norvège, effectivement, tient une attitude tout à fait remarquable. Elle dit aussi plus loin qu'il est temps que la FIFA s'acquitte de ses responsabilités au lieu de se contenter de rejeter la faute sur le Qatar, ce qui est effectivement très facile. Et juste à la fin de ce communiqué, il a dit la chose suivante. En décembre 2022, Gianni Infantino, qui est le président mondial de la FIFA, a annoncé que la FIFA avait gagné 7 milliards de dollars grâce au cycle de la Coupe du Monde, soit environ 1 milliard de plus que prévu. Donc voilà, 7 milliards qui ont été gagnés grâce aussi aux atteintes aux droits humains des travailleurs du Qatar, voire au décès de pas mal d'entre eux. Donc on vous laisse tirer la conclusion qui doit se tirer effectivement par rapport à ça. Et on en reparlera, puisque, comme on vous disait, Amnesty ne lâche pas, donc on continue la pression par rapport à ce dossier, si on peut dire, entre guillemets. Voilà. Je reprends le conducteur parce que je ne sais plus du tout où on en est rendu. Ah oui, c'était toi, Edith, on a encore le temps d'une petite information. Je crois que ça concernait les États-Unis.
Alors les États-Unis, mais je vais peut-être commencer, vous l'aurez après, les États-Unis.
Bon, alors
je
voilà.
Je vais commencer par les
Comme
petits
tu veux.
Brefs. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est nouvelles technologies. Et puis, on a ça dans chaque chronique avec des petites actualités qui sont... Quelque part dans ma chronique, que j'ai retourné du mauvais côté, donc je suis en train de le retrouver.
Edith est en train de chercher
voilà.
la bonne
donc
page.
Donc, c'est tout ce qui est Internet, tout ce qui est. Big Brother, pourtant ça se parle. Voilà. Donc, en Iran, voilà. Donc, Iran, on en parle pour plein de choses. Et là aussi, bon, on va peut-être faire un tout petit sourire, mais c'est quand même bien, bien, bien dommage et bien triste. Prison pour une danse. Une vidéo a été vue des millions de fois sur Instagram. Sur un fond de musique romantique, un jeune couple d'une vingtaine d'années danse sur une place urbaine. La jeune femme est dans les bras de son partenaire. Ses cheveux virevoltent. Sauf qu'on est en Iran, pays où il est défendu à une femme de retirer son voile et de danser avec un homme, en plus en public. Retrouvée par les autorités grâce à Instagram, Astiyash et Amir ont été arrêtés, battus et condamnés le 29 janvier à 10 ans de prison pour encouragement à la corruption et à la prostitution publique et rassemblement dans l'intention de perturber la sécurité nationale. Eh bien, on aurait envie d'aller danser sur toutes les places pour faire un contrepoids à cette justice complètement folle.
Je sais pas. Oui, il n'y a même plus de terme de justice, hein, parce qu'arrêter des gens parce qu'ils dansent, enfin je veux dire, des moments on se dit quand même qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont tombés sur la tête.
Oui, mais
il y a
plein de dictatures ou d'endroits où justement la danse, le chant, c'est l'expression du corps et c'est l'expression de la liberté, c'est interdit.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi, Claire-Lise, mais à chaque fois on se dit qu'on est tombé sur la tête.
Et si on parle de nouvelles technologies, bon, Instagram, c'est pas forcément si... qui gardent vraiment toutes vos données, puisqu'ils ont réussi à retrouver qui était le jeune homme et la jeune femme. Quoi. Voilà, faut aussi toujours se méfier de ça. Une deuxième,
et puis je sais pas si tu auras le temps de parler des États-Unis. Après, c'est toi qui vois.
C'est dur.
Ah bah oui, mais
on a trop de nouvelles. Alors, allez, les États-Unis. Tant pis, vous les aurez. Il me fait regretter la prochaine
fois.
Voilà, oui, alors les États-Unis, c'est, on revient un peu sur le sujet de Claire Lise, ce sont les migrants. Donc il y a un sinistre marchandage aux États-Unis. Depuis quelques mois, la municipalité de New York achemine gratuitement ses demandeurs d'asile en bus vers Plattsburgh, ville américaine située à 30 minutes de la frontière canadienne. Elle les incite ainsi implicitement à passer par le chemin Roxham, une petite route rurale, point d'entrée illégal au Canada. Pour les aider à franchir la frontière, il y a des taxis, des passeurs américains qui les attendent sur place à la descente du bus. C'est une industrie très lucrative. Bilan, les personnes migrantes censées demander l'asile aux États-Unis le font au Québec, ce qui arrange bien l'oncle Sam. Ces révélations du New York Post début février ont créé une onde de choc au Canada. Car selon un accord signé en 2002 entre le Canada et les États-Unis, un réfugié se présentant à un poste frontière officiel canadien et ayant d'abord foulé le sol américain est renvoyé car il doit déposer sa demande d'asile dans un premier lieu sûr où il est arrivé. Mais l'accord ne s'applique pas au point de passage irrégulier comme le chemin Roxham. Cette faille de l'accord devait être au menu des discussions entre le premier ministre canadien Justin Trudeau et le ministre américain Joe Biden lors de la visite de ce dernier à Ottawa en mars. En toile de fond de cette situation explosive, des conditions d'accueil de plus en plus déplorables au sud des États-Unis. Depuis le printemps dernier, la Floride et le Texas, deux États conservateurs, se débarrassent de leur population migrante venue d'Haïti, du Mexique ou d'Amérique du Sud et la renvoient vers New York. Voilà, comment on dit, le jeu de la main chaude, je ne sais plus.
Enfin, la patate
c'est...
chaude.
La voilà. Patate chaude, c'est ça, ouais. Oui, tout à fait. Donc, quand on voit effectivement les problèmes de se renvoyer les responsabilités par rapport aux atteintes aux droits des migrants, c'est, là aussi, c'est devenu quelque chose d'universel.
Hein.
Oui.
Parce que maintenant, c'est moi qui aurais pas le temps. Musique.
Deuxième pause musicale, on se retrouve juste après.
Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes effacées de nos mémoires, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout. Debout, 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 debout. Asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves. Debout, debout, debout.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc on vient d'entendre Mathilde, une chanson qui s'appelle « L'hymne des femmes ». Bien sûr, vous avez compris le lien avec la thématique de l'émission, il n'y a pas de problème. Voilà, et maintenant je laisse la parole à Claire-Lise.
Alors, je vais revenir sur le projet de loi « Asile et immigration 2023 ». Je sais que mon amie Mina en a parlé à l'émission du 14 février, elle a commencé à vous en parler. Donc là, c'est une action qui est proposée sur le site d'Amnesty pour faire pression sur vos sénateurs et sénatrices, c'est-à-dire de leur écrire, justement par rapport à cette loi. Parce que le mardi 28 mars 2023, le projet de loi sur l'asile et l'immigration, projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, dit Monsieur Darmanin, donc proposé par le gouvernement, sera débattu en séance publique au Sénat. Ce texte fragilise une fois de plus les droits des personnes exilées en France. Donc nous vous demandons d'interpeller vos parlementaires pour exiger une politique migratoire respectueuse de la dignité des personnes et de leurs droits fondamentaux. Depuis 30 ans, les textes relatifs à la politique migratoire de la France se sont succédés avec toujours les mêmes conséquences, le recul des droits des personnes exilées et la détérioration de leurs conditions d'accueil. Ce projet de loi ne fait malheureusement pas exception et pourrait même avoir de graves conséquences sur les droits fondamentaux des personnes exilées. De plus, il ne répond pas aux enjeux actuels, comme par exemple le besoin de voies légales et sûres pour rejoindre l'Europe, les multiples violations des droits aux frontières, les drames des naufrages en mer ou le nombre de personnes exilées contraintes de vivre à la rue. Il ne répond pas non plus aux difficultés d'accéder à la préfecture pour demander un titre de séjour, l'absence de protection de nombreux enfants en danger, les défaillances du système d'asile. Donc, alors que l'examen du projet de loi débutera le mardi 28 mars au Sénat, à nos côtés, nous vous demandons de rappeler aux sénatrices et aux sénateurs leurs responsabilités et de demander une politique migratoire à la hauteur des enjeux. Donc, le message, il faut envoyer un email, et le message, le voici. Donc, agissez pour les droits des personnes exilées. Madame la sénatrice, monsieur les sénateurs, le 28 mars prochain, le Sénat examinera le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. En l'état, cette loi contribuera à détériorer encore plus les droits des personnes exilées. Aussi, il est nécessaire de supprimer l'article 20, prévoyant de généraliser les audiences devant un juge unique à la Cour nationale du droit d'asile. La formation collégiale actuelle garantit aux demandeurs d'asile et aux demandeuses d'asile plus d'impartialité et permet aux juges de confronter les points de vue. Et s'il n'y en a plus qu'un, eh ben, ça sera beaucoup plus difficile. Et beaucoup de personnes jouent leur vie lors de ces audiences. Et puis de supprimer aussi l'article 12 qui prévoit la fin de l'enfermement en centre de rétention administratif pour les moins de 16 ans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour respecter la Convention internationale des droits de l'enfant. Cet article doit aller plus loin, en incluant aussi les enfants jusqu'à 18 ans, y compris ceux qui vivent en Outre-mer, et en visant tous les lieux. Parce que pour l'instant, l'article 12 ne vise que les centres de rétention administrative. Et je vais vous expliquer après. Donc voilà. Donc là, c'était le texte. J'ai fait des apartés sur le texte. Donc vous écrivez toujours au sénateur. Et je compte sur vous pour ériger les droits humains en boussole de vos décisions. Pour ce projet de loi, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Donc, nous, Amnesty International, nous demandons la suppression de l'article 20 qui prévoit un juge unique à la Cour nationale du droit d'asile, ce qui statue en dernier ressort, alors qu'actuellement, il y a 3 juges qui étudient les demandes d'asile, garantissant un croisement des expertises, et ce qui est indispensable, et le juge unique doit rester l'exception. Et nous demandons l'interdiction stricte de l'enfermement des enfants de moins de 18 ans en centre et en locaux de rétention et en zone d'attente en France hexagonale et d'outre-mer pour garantir le plein respect des droits des enfants. Alors, vous rappelez quand même juste la différence entre un centre de rétention et un lieu de rétention administrative. Donc, les CRA, centres de rétention administrative, ce sont des établissements qui sont des bâtiments où sont retenues toutes les personnes étrangères en attente de leur expulsion du territoire français. Le temps passé dans les CRA est de 90 jours maximum et ils sont gérés par la police aux frontières. Et souvent, il y a une association de droit qui est là pour garantir les droits. Les locaux de rétention administrative, LRA, sont moins grands que les CRA. Ils sont utilisés pour retenir des personnes étrangères en situation irrégulière en vue de leur expulsion du territoire français. Un LRA, c'est par exemple une pièce dans un commissariat. Généralement, les personnes y restent maximum 48 heures avant d'être placées en CRA. Mais maintenant, ils ne veulent plus les placer en CRA, ils veulent pouvoir les expulser directement. Donc, oui, mais je vais quand même finir mon article. Voilà. Donc, il n'y a aucune association de défense des droits des étrangers qui est présente dans ces locaux. Et je fais le rapprochement aussi avec les LRA, puisque le lundi dernier, nous avons eu une audience avec le collectif Solidarité Migrants de l'Eure, dont Amnesty International fait partie. Une audience pour parler du problème de l'accueil des migrants, notamment dans le département de l'Eure, avec les 9 associations qui font partie du collectif. Et le préfet de l'Eure, le nouveau préfet de l'Eure, Monsieur Simon Babre, nous a effectivement dit qu'il va y avoir un lieu de rétention administrative à Évreux qui va ouvrir en 2022. Voilà. En 2023, excusez-moi. Donc, effectivement, ça nous inquiète beaucoup sur les mesures d'expulsion qui vont pouvoir avoir lieu. Et donc, l'appel à cette manifestation du samedi 18
Qu'est-ce
mars...
Qu'est-ce que c'est, cette manifestation?
Alors, c'est une manifestation qui, au départ, est organisée par une petite association qui s'appelle Heure Solidaire. Donc, Heure Solidaire, c'est une association de solidarité contre le racisme qui existe à Évreux, rue Pisan. Voilà. Nous, on a appris que cette association organise une manifestation contre le racisme et l'antisémitisme relayée par le président de la Tunisie à l'encontre de la population noire subsaharienne.
C'est le rappel
du premier article dont je vous ai parlé. Et donc, cette manifestation, elle aura lieu samedi 18 mars et le rassemblement, c'est à 13h30 devant le Bel Ébat. Et donc, l'association dénonce également les accords de coopération et d'extradition judiciaire signés entre le gouvernement sénégalais et le gouvernement français, ainsi que la loi d'asile-immigration de Gérald Darmanin. Donc, cette action interroge non seulement la place de bouc émissaire qui cristallise peur, haine et obscurantisme lors d'une crise, mais aussi le sens de la paix, de la tolérance face à l'autre étranger, du vivre ensemble dans le monde entier, car nous ne formons qu'une seule et même une humanité. Donc, nous souhaitons co-construire cette journée, là, ainsi qu'une journée de discussion citoyenne par la suite. Donc, nous vous remercions et comprenons et comptons sur votre implication. Et ça, c'était l'appel donc, à la manifestation des membres de l'association Heure Solidaire, auquel s'associent la LDH de l'Eure, le CFED Asti d'Évreux, et des membres d'Amnesty International participeront aussi à cette manifestation. Et je vous encourage à venir à ce rassemblement parce que c'est important. Il n'y en a pas beaucoup à Évreux sur ce thème. Et donc, ça sera samedi 18 mars, rassemblement 13h30 devant le Pré du Bel Ébat.
Merci.
Merci, Carlis. Comme on est dans les informations très locales, on va conclure l'émission là-dessus. Et moi, je vais vous faire part d'un communiqué qu'on a reçu aujourd'hui qui vient d'Artisans du Monde, des gens qu'on connaît bien, parce que Artisans du Monde tient une boutique à Évreux depuis très longtemps, depuis 20 ans, c'est marqué dans le communiqué, et ils n'échappent pas à la crise économique, et donc ils ont quelques difficultés financières concernant la bonne santé financière de cette boutique. Donc voilà ce qu'ils nous ont écrit, je vais vous faire un petit résumé de leur communiqué. Depuis un peu plus de 20 ans, l'association Artisans du Monde est présente à Évreux, en particulier à travers sa boutique associative et sa participation à diverses actions militantes, très souvent en collaboration avec d'autres acteurs souhaitant promouvoir un monde plus ouvert, social et solidaire. Petite parenthèse, Amnesty a souvent bénéficié du soutien aussi des militants d'Artisans du Monde. Donc, ils ont quelques difficultés financières et ils disent plus loin, bien sûr, le contexte économique actuel qui fait souffrir de nombreux commerces, à l'exception des habituels profiteurs, ceux-là même qui façonnent ce monde que nous voudrions changer, est la cause principale de nos difficultés. Il nous semble également qu'au fil du temps, beaucoup parmi les plus convaincus ont perdu le chemin de la boutique artisan du monde. Nous ne voulons pas croire qu'il s'agit d'un désamour, mais que ce sont les impératifs du quotidien qui nous ont peu à peu éloignés. Il suffirait de peu pour que toute l'équipe engagée dans l'aventure depuis ces nombreuses années retrouve le sourire et que l'activité du magasin soit envisagée durablement. Une petite visite de temps en temps, occasion de tailler la bavette, éventuellement de boire un café, et pourquoi pas de repartir avec quelques articles effectivement du magasin, dont ils disent un jus d'ananas au goût inconnu en grande surface. Voilà, donc il faut aller goûter leur jus d'ananas. Le communiqué se termine. Bien sûr, nous aimerions avoir disparu dans 20 ans parce que les règles du commerce mondial seraient devenues suffisamment équitables pour que notre existence ne soit plus justifiée. Mais pour l'instant, nous n'en prenons pas le chemin, donc on doit continuer. Donc soutenons la boutique Artisan
Allez
du Monde.
Allez acheter des produits alimentaires, des cadeaux, faites vos provisions, c'est une super boutique.
Voilà, et donc on conclut Info Local, ça va être très court. Nous, on est partenaire du spectacle du Tangram la semaine prochaine, le 21 mars au Cube, à 20h, qui s'appelle An Immigrant Story, c'est de la danse et du théâtre, 21 mars, 20h au Cube. Et on se retrouve pour notre prochaine émission, le mardi 28 mars, en direct sur l'antenne de Principe Actif.
Et voilà. N'oubliez pas la manif du 18 mars.
Voilà.
13h30 près du Bel et Bas.
On laisse la place avec plaisir au laboratoire qui va prendre l'antenne juste après nous. Donc voilà, au revoir.
Et on vous dit
rendez-vous
au revoir.
Le 28.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.